Hey, Algeria.
How are you?
Tonight, you are with Herreg Melodica on 213 Rock Show. Tonight, you are with Herreg Melodica on 213 Rock Show. Tonight, you are with Herreg Melodica on 213 Rock Show.
On Vinyls Times Classic Rock Radio.
Are you ready? Let's go!
Bitch! Salut à tous, 213 Rock avec Melodica pour vous accompagner tonight on Vinyl Times, the Classic Rock Radio jusqu'à 21h, only one hour of hard rock music, 213 Rock. Très heureux de vous retrouver ce soir, hein, un planning de choix ce soir puisque Ivan Gievic, guitariste du groupe Earthline, sera en direct dans à peu près 25 minutes hein, pour venir présenter l'album. Effectivement, on va parler de cet album, le Rock and Roll Queen, ainsi que de ses deux clips vidéo, etc. Des dates, on a beaucoup d'informations à vous donner ce soir en direct dans 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio sur ce fantastique disque. Mais en attendant, nous avons démarré avec l'interview d'hier soir, le Fury, puisque Becky Baldwin, la bassiste du groupe, était en direct hier soir dans 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Je suis en train de préparer le podcast pour qu'il sera disponible, j'espère en tout cas, en début de semaine, 213 Rock. Allez, à l'instant, Embrace the Demons, extrait donc de ce bel album sorti en 2022, le Born to Sin, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Continuons en musique avec Tigers of Pandang, le Back for Good, l'album Bloodlines, 213 Rock. How yeah, 213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio, back for good, les Tigers of Pantang Bloodlines, 213 Rock, continuons avec les hits, allez on revient sur l'album Force Majeure avec le single Nationwide, là on va commencer à mettre un peu de vitesse dans 213 Rock Vinyl Times, le Classic Rock Radio. Oh yeah, 213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio Hit Nationwide. 213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio, l'album Force Majeure. J'ai un cadeau pour vous tout de suite. Le nouveau single des Temple Bowls, puisque le nouvel album, le quatrième album qui sera du groupe, donc il s'intitulera Avalanche, sera disponible le 19 novembre prochain via le label Frontiers Music Records. Voici le single Trap. Attention, c'est du level 213 Rock.
Yeah.
213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Temple Balls, le nouveau single Trap. L'album le 19 novembre prochain s'intitulera Avalanche. Attention, hein, il est bon le disque, hein, 213 Rock, continue avec les Devil's Twin, You Promise Me Love, 213 Rock, Vinyl Times, Your Classic Rock Radio. Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, You Promise Me Love, 213 Rock, les Devil's Twin, l'album Ashes and Bones, 213 Rock. Continuons juste avant l'interview avec les Five Finger Death Punch et la reprise de Kenway Shepherds, le Blue and Black, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio.
Chill me to the bone. 213 Rock with Herreg Melodica on Vinyl Times Classic Rock Radio.
Yeah, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, en direct ce soir, Mr. Ivan Gievic. Hi Ivan, nice to meet you.
Hello Harag.
Ça va, tu vas bien?
Comment
allez-vous? Ouais, ça va et toi?
Super bien.
Ouais, très bien.
Très bien.
Ouais. Ouais. C'est rare les interviews en français dans 213 Rock en ces derniers temps, quoi.
Bah tu vois, ça arrive.
Ouais.
Même pour moi, les interviews en français ont été rares ces derniers temps. Je te cache pas que je crois que c'est ma première pratiquement.
Bah tu vois, j'ai démarré Hi Ivan, nice to meet you direct. Hein, ça a été, je dis merde. En tout cas, très heureux de vous retrouver ce soir, hein, Ivan, effectivement, dans 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Effectivement, tu viens parler, donc, de ce nouvel album, Hey, Rock and Roll Queen, ah, ouais, qui t'a donné beaucoup de travail avec le groupe, bien évidemment, qui est sorti, qui est disponible, hein, depuis le 23 juin dernier.
Ouais, tout à fait.
Ouais, depuis le 23 juin dernier, qui succède à Back in the Game, hein, sorti en 2021, album qui avait déjà fait forte impression dès le départ, avec un concert parisien qu'on a encore en mémoire. Et puis après ce concert, effectivement, il y a eu beaucoup de travail pour arriver avec ce nouvel et deuxième album, quoi. Beaucoup de choses.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Complètement. Et puis le groupe, effectivement, il y a eu ce concert parisien. Et puis il y a des choses qui se sont passées, hein, notamment vous êtes rentré en studio, vous avez commencé à composer, vous avez commencé à réfléchir sur ce nouvel album, vous avez commencé à donner de l'orientation, vous avez fait un petit condensé de ce qui vous est arrivé avant Back in the Game jusqu'à quasiment à l'écriture, hein, pour commencer à écrire. Donc il a fallu quand même faire un relevé de notes de tout ça et puis et commencer à travailler, voilà.
Ouais, et puis il y avait le fait aussi de gagner en cohésion, parce que sur cet album-là, du coup, la différence, c'est qu'on a été joué un peu à travers la France, on a été joué en Belgique, on a fait des résidences en Belgique d'une semaine, tu vois. Donc ça crée des choses différentes, évidemment. Et ça a donné pas mal de matière et de nourriture artistique à l'album, parce que je commençais à bien comprendre où je voulais aller avec les gars, et puis ça s'est encore une fois enchaîné assez vite, pas aussi rapidement que sur le premier, on avait pondu pratiquement tous les titres en 3 semaines avec Manu, tu vois. Mais j'avais déjà écrit 3 morceaux, je crois, même quand on s'est vu à la Boule Noire, on avait déjà joué I Am The Night, qui voulait l'album, tu vois, il avait déjà été joué en live, et on savait qu'on voulait faire quelque chose qui soit pas tout à fait le même que le premier album, parce que c'est pas non plus très intéressant, mais on n'allait pas non plus partir dans carrément autre chose, parce que moi j'aime pas trop les, quand j'achète l'album d'un groupe et que l'album d'après c'est plus du tout la même chose, en général je suis toujours un peu déçu, parce que je me dis tiens c'est bizarre. Donc on est parti sur un petit peu le même principe, toujours très 80, on s'est juste dit qu'on allait forcir un tout petit peu le ton, tu vois, avec des guitares un peu plus puissantes. Je me suis pas mal inspiré de, notamment de George Lynch, tu vois, avec qui j'avais fait un morceau, tu vois, ça aussi, c'est pareil, ça compte, tu vois, c'est des choses qui nourrissent, tu vois, donc on s'est dit qu'on allait faire encore du AOR, mais qu'il y aurait une petite touche de classique rock à la Whitesnake, encore un peu plus prononcée, tu vois, avec des gros sons et des choses comme ça, quoi.
Ouais, des gros sons, des gros riffs, effectivement, c'est là-dessus que, effectivement, l'album est calibré. D'ailleurs, j'ai lu comme ça, dans l'après-midi, en travaillant l'interview, effectivement, de ce soir, j'ai lu une chronique d'un de tes confrères qui est Guitar Part, et j'ai beaucoup aimé, il y a une phrase sur laquelle j'ai beaucoup aimé, ça résume très très bien la situation. Guitar Part dit du nouvel album, que le groupe aime le fun et le sunstrip sur des compos bien calibrés. J'ai trouvé cette phrase excellente.
Bah c'est carrément ça.
Ouais.
En plus, tu vois, moi j'étais sur le South Strip en 2017, avant 2018, je sais plus, tu vois. Donc voilà, c'est des sources de d'inspiration. La musique du groupe, elle vient de là, on s'en cache pas du tout. On n'est pas du tout à essayer de dire on n'a pas d'influence. Non, nous on voilà, c'est les groupes qui m'ont marqué, parce que je suis un peu plus vieux que les autres, tu vois, j'ai 10 ans de plus. Pour moi, dans les années 80, bon, moi j'étais à fond dans le truc, quoi. Moi j'étais vraiment dans cette musique, dans les arrivées de rap, de Dokken, d'autographe, tu vois, de tous ces groupes monstrueux. On a pris des wagons à l'époque quand même, tu vois.
Mon Dieu.
Et moi je veux retrouver, alors cet esprit musical, j'ai pas le côté glam, rock, hair metal, par contre ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, tu sais, le côté super looké, tout ça, parce que ça par contre c'était une époque et c'est plus le cas maintenant, et là le faire revivre, ça m'intéresse pas vraiment. Par contre retrouver des sensations super fun, super cool, et puis avec des belles mélodies et des gros riffs, ça par contre c'est ce que je retiens de ces années là en fait.
Donc justement entre vous êtes abordés à la fin, donc effectivement, de ce premier album, suite à tes voyages, suite à toutes tes connaissances, tout ça, tout ce qui est arrivé, il fallait comment composer et comment faire mieux. Alors ça a été une question, ça, hein, parce que Rock and Roll Queen, finalement, je dirais que l'album a été réalisé en équipe. Voilà.
Complètement. Ouais. Il y a plus de travail de chacun. Chacun y a mis un petit peu plus, tu vois. On a gardé exactement, si tu veux, la même façon de travailler, où en gros, je façonne le squelette et je mets quelques muscles et un peu de viande dessus quand même. Mais tu vois, Manu arrive ensuite, que ce soit la batterie. On a beaucoup bossé la batterie avec Walter, notamment. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais. Que ce soit les lignes de basse de Dom et bien sûr, l'énorme travail de Joris au clavier. Tu vois, puis qui m'aide aussi à mixer, et ça donnait quelque chose qu'on espérait d'être encore plus goûtu, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de plus costaud, quoi.
Écoute,
c'est vraiment ce qu'on voulait.
Moi, à mon sens, il y a plus d'amplitude dans l'écriture des titres. Vous avez gagné en amplitude, c'est-à-dire que c'est plus large. Il y a de la variation, il y a des écarts sur la qualité des titres, hein. C'est-à-dire que les écarts, il y en avait sur le premier album. C'est-à-dire que d'un titre à l'autre, on pouvait aimer ou ne pas aimer, parce qu'il y avait des longueurs, il y avait des choses peut-être que là vous avez un peu plus gommé. Là, il y a moins d'écarts. Les écarts se sont réduites. C'est beaucoup plus compact. Voilà, ça c'est la différence avec le premier album.
Ouais, parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux faire artistiquement, c'est une volonté que j'avais absolument d'y aller, de tailler dedans, tu vois, pas de morceaux longs. En fait, je veux dire un truc, c'est pas du tout prétentieux, mais je me suis dit, je vais aborder cet album comme si j'abordais un best-of, tu vois. Je vais essayer de faire que des morceaux, entre parenthèses, je te dis, à mon tout petit niveau, mais je vais essayer de mettre que des balles, tu vois. Je vais pas essayer de faire des morceaux un peu plus longs, ou ce qu'on appelle ces fameux morceaux d'album, tu sais, où des fois tu dis, tiens, là, je vais faire un morceau un peu plus expérimental, pour montrer que je sais faire la guitare, tu vois. J'ai pas voulu faire ça. Je me suis dit, on va faire 12 titres, et carrément, à la fin, on va galérer pour savoir quel morceau on va mettre en single, parce que je veux que chaque titre ait un refrain fort et un super pont, et tu vois, c'était hyper important que de vraiment travailler les titres un par un et de jamais en prendre un par-dessus la jambe, tu vois. Ouais, chose qui arrive parfois, soit qu'on fasse exprès, mais des fois on se dit ouais bon c'est bon, tu vois. Là on se disait non, il faut que ce soit une... chaque morceau doit être super, quoi.
C'est exactement ça, exactement ce que je me suis dit à l'époque lorsqu'on chez Vinitime nous avions reçu l'album avec le doc, on s'était posé la question. Ils se sont dit mais quel titre ils vont choisir pour faire un clip, parce que là il y a du niveau en fait, hein. Et finalement tout le monde a eu, et y compris toi-même, hein, tous ont eu des avis très différents. Moi j'avais un titre ou deux titres, je me disais tiens, toi t'avais les tiens, alors bien évidemment derrière t'avais tes idées en développement, effectivement Antoine le booking avait aussi ses idées, donc on avait tous échangé effectivement et personne n'avait les mêmes idées. Ça c'est, alors au départ il y avait une incompréhension qui s'était installée et finalement avec le temps ça devient une force. Et tu vois, on va y revenir dans quelques instants parce que j'ai une question là-dessus. Et parce que c'est pour moi c'est une force en fait, parce que c'est une écoute en longueur.
Et puis quand tu choisis façon de single, n'oublie pas aussi que t'as aussi le label qui a son mot à dire. Mm-hmm. Alors, il se trouve que ce qui était surprenant, c'est que Pride and Joy Music et moi, on était exactement sur la même longueur d'onde, si tu veux, ce qui rassure, tu vois. Tu dis, je suis pas débile. Puis pareil avec les gars du groupe, hein, on a fait un brainstorming. Et les deux titres qu'on a choisi de mettre en premier, ils revenaient systématiquement parce que, en fait, ils représentaient ce qu'on voulait présenter sur l'album en premier.
Ouais.
En sachant qu'un album, quand même, on espère quand même qu'il a pas qu'une vie de un mois. Tu vois, il est censé avoir une vie d'un an et demi, et que tu as le temps de faire des choses derrière, de présenter des choses. Il y aura un troisième clip normalement à venir en courant octobre.
D'accord. Ah, bonne nouvelle.
D'accord. Tu vas être content quand tu sauras le titre.
Ah. Je pense.
Parce que justement, comme on fait un live avec Patrick, tu vois, ça, je l'avais mis de côté en me disant, comme Patrick, il vient jouer le morceau Call of the Wild avec nous, on va en profiter, tu vois, on va faire un shooting de ça, pas un clip, mais un espèce de clip live. Alors, ce sera pas le morceau en live, mais on va mettre des images de scène et de tout ça là-dessus, et puis ça nous fera un beau truc. Parce que c'était compliqué de sortir par exemple, Call of the Wild qui est revenu assez souvent, tu vois, c'était compliqué de le faire sans Patrick.
Ouais.
Dans le clip, et voilà, donc ça, si tout se passe bien, je croise les doigts, normalement je pense qu'en d'ici octobre on devrait pouvoir proposer un nouveau truc avec ce morceau. Je sais que tu l'aimes beaucoup en fait.
Ouais, je l'adore ce titre d'ailleurs, comme je te l'ai dit, hein, c'est un de mes titres, c'est mon titre préféré de l'album. Sinon I Am The Night, c'était le titre parfait pour ouvrir cet album, hein, en fait. Voilà, en fait vous auriez pu jouer la carte de la facilité avec des titres beaucoup plus accrocheurs, beaucoup plus faciles. Celui-là non, il n'est pas facile en fait. I Am The Night, ouais, il y a une prise de risque derrière. Parce que ça se veut accrocheur,
en fait. Moi j'aimais bien le riff, j'aimais bien tout de suite tu comprends que c'est quand même beaucoup plus costaud, que c'est pas du AOR tout doux, tu vois, on est quand même sur quelque chose d'assez, tu nous avais en concert, ça envoie en fait, hein. C'est le genre oh ouais du hard FM, non viens tu vas voir, c'est fort, hein.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser ça m'a fait vraiment penser à quelque chose, ça m'a fait penser à l'état d'esprit de Loudness à l'époque quand ils ont sorti Lightning Strikes au titre Let It Go.
Loudness, hein.
Let It Go et I Am The Night, c'est dans la même bataille, quoi. Voilà,
mais justement Akira Takasaki, pour moi c'est un putain de faiseur de riff, tu vois, et j'adore la façon dont il travaille là-dessus. C'est une vraie influence aussi, tu vois, qu'on va peut-être pas entendre au premier degré, parce que c'est pas, nous on plagie pas, tu vois, on essaie juste de, mais par contre c'est vrai, c'est ce côté très tranchant, des choses simples mais extrêmement bien rythmées et très tranchées, il le fait d'une façon incroyable, et pour moi ouais c'est une vraie influence. Akira Takasaki, c'est même carrément une influence en fait.
Till the End of the Times, c'est le premier single extrait de cet album. Personnellement j'étais très surpris de ce choix.
Bah écoute, nous on le trouvait super, on aimait bien l'énergie, on le trouvait très très pareil, ce côté un petit peu rentre dedans, tu vois, avec un gros riff bien tenu quand même, très tight, tu vois, très très 80 en fait, il est vachement 80, sauf qu'on n'utilise pas les synthés comme dans les comme à l'époque, mais on, voilà, nous on aimait bien celui-là, on trouvait le refrain super. Et puis la maison de disque a dit oui carrément, partons là-dessus.
Justement, au sein de la radio, c'est les singles, on en fait une spécialité quand même chez Vinny Times. Hein. On en écoute énormément tous les jours, beaucoup de singles, on en reçoit. Donc effectivement, les albums en général, quand c'est bon, on écoute l'album. Sinon, en général, on fait vraiment que du single parce que les oreilles, ça aussi, parfois il faut être frais dans la tête.
Bien sûr. Hein.
Ça fait beaucoup de musique à écouter. Et on a été très surpris, hein, que Till the End of Times. Et puis finalement, je me suis fait une raison avec le temps. En fait, je me suis dit, je pense que Yvan doit jouer sur la longueur du temps avec ses morceaux. C'est-à-dire qu'il doit se dire, les gens, s'ils accrochent pas tout de suite, dans les 3 mois, ils vont accrocher. Et à la limite, ça, c'est peut-être mieux. Parce que si tu accroches tout de suite, peut-être que dans 3 mois, tu seras passé à autre chose. Donc c'est peut-être la.
Ouais, mais en même temps, le morceau, il a vachement accroché, tu vois. C'est aussi une question de chacun a ses goûts, ses couleurs, tu vois. Nous, on aimait bien ce côté. On était très fans de ce morceau. Et tu vois, ça a même pas été un débat dans le groupe, tu vois. Mm-hmm. Ça a même pas été un débat dans le groupe. Il y a d'autres morceaux plus faciles, effectivement. Mais là, je te rejoins tout à fait. Il y a des morceaux qui seraient plus simples. Mais moi, il me convenait pas parce que je trouvais qu'il représentait pas vraiment ce qu'est l'album en fait.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire.
D'accord. Très bien. Et bah, j'ai envie de souligner bon, un truc très important, c'est le travail. Et tu l'as dit il y a quelques instants, le clavier Joris. Ouais. Chaque note sortie de son clavier, il vient accompagner la voix d'Emmanuel. Tu vois, c'est d'une importance incroyable. Hein. Et je vais même faire des grandes références là-dessus. Tu vois, la technique, elle existe. Tu vois, entre John Lord et Ian Gillan et Mick Mihalkeli et Joey Tempest. Et là, c'est pareil. C'est dans le même truc. C'est la même technique. C'est-à-dire que derrière, il y a un beau chant, mais derrière, il y a un travail de clavier monumental. Il n'en met pas des masses. Hein. En fait, il met ce qu'il faut. Il met la dose qu'il faut. Et ça, c'est très compliqué de mettre la bonne note au bon son, au bon moment, dans le bon timing pour que sublimer la voix, effectivement, d'Emmanuel. Et ça, j'ai trouvé ce travail-là important. Et j'ai vachement écouté l'album, mais j'ai écouté derrière, ce qui se passe derrière. Parce que derrière, il y a un monde derrière qui est fait par Joris, qui est fait, effectivement, par le batteur et par le reste du groupe. Hein. Et ça, c'était important.
Complètement. De toute façon, c'est un super clavier. Hein, il a. Et on a exactement la même façon de penser à la musique. Nous, on pense au morceau en premier quand on pense pas à se mettre en avant ou à se dire on va leur en mettre plein la vue. Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir le morceau. L'important, de toute façon, c'est la chanson. Si la chanson est pas bonne, tu pourras faire ce que tu veux derrière. À part rajouter des choses, tu vois, faire du décor, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Donc, ce qu'on veut, c'est que. Et le plus important c'est une belle chanson, c'est mettre la voix en avant, tu vois, et puis voilà quoi. C'est vraiment ça qui compte quoi.
Ouais, mais
dans ce genre de musique, c'est ça qui compte.
Mm-hmm. Et justement avec Call of the Wild, donc tu en parlais il y a quelques instants, pourquoi c'est mon titre préféré, parce qu'il y a des tentatives visant à élargir hein, des nouveaux horizons musicaux. Enfin, pour moi c'est ça, il y a une tentative de vouloir élargir. Il y a ce côté dans ce titre, il y a un côté ricain à Los Angeles et moi la première fois lorsque je l'ai écouté, il y a un truc qui a tilté dans ma tête directement. Ça m'a fait penser au label Shrapnel Records. Voilà. Entre le clavier de Joris, la partie solo de Patrick, ainsi que la tienne, ça m'a fait penser effectivement au Shrapnel Records, Mike Varney, tu sais, l'album Tony McAlpine, Maximum Security, tu vois, le duo avec Jeff Watson, le duo avec les deux titres avec George Lynch aussi,
avec
tu vois.
Lynch, ouais.
Ouais, Tears of Sarah. Ça m'a fait penser à cette période-là, quoi. Et j'ai trouvé ça, voilà pourquoi j'ai accroché, j'ai adhéré à ce titre, tu vois. Je me suis dit, ce titre, il est canon, quoi. Et j'arrête pas de l'écouter, hein. C'est quand je vais écouter cet album, je vais directement à ce titre au départ, parce que pour moi, comme je le disais tout à l'heure, ça aurait pu être un titre qui aurait pu ouvrir cet album, ça aurait pu être plus facile, et finalement non, tu vois, finalement non, tu as choisi, vous aviez votre propre voix, vous aviez vos propres intentions, oui. Très bien, ok, mais ce titre, franchement, il y a un truc à part sur ce titre, voilà.
Bah, c'est un super titre, mais après, tu vois, si on parle d'artistique, parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'objet artistique, aux propos qu'on a. Moi, je peux pas ouvrir un album de mes compositions avec un guest.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. C'est Patrick, en fait, tu vois, il est sur l'album. Du coup, ce morceau qui était là, qui était un des morceaux que j'avais commencé à mettre en voilà, j'avais commencé. Moi, je voulais un haut pour la scène, en fait. C'est un morceau qui est écrit pour la scène.
Ouais.
Tu vois. Mm-hmm. Et puis. Je savais pas concrètement où casait Patrick sur les morceaux, parce que je me suis dit, celui-là, il y a moyen de faire un truc avec, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un long travail solo, tu vois, avec Jojo, Patrick et moi, tu vois, et du coup, moi, je pense que ça a bien fonctionné. Mais du coup, on a cette partie-là, mais qui s'intègre dans un vrai morceau, tu vois, c'est pas un morceau prétexte non plus.
D'accord.
Tu vois. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup ce morceau, hein, et puis tout le monde l'aime beaucoup, y a pas de souci. De toute façon, on aime tous nos morceaux, sinon ce serait dommage, quoi.
Et justement, mais moi, je considère pas Patrick comme un guest, je considère Patrick comme un frère, en fait. Voilà. Et comme un frère.
Non, mais c'est un mec qu'on aime, que je connais tous les guitaristes français.
Bien sûr, bien sûr.
De ma génération. On admire Patrick Gronda,
tu vois. Bien sûr, on l'admire.
Et puis bon, pour l'anecdote, c'est quand même, je veux dire, j'ai pas démarché Patrick pour qu'il joue sur l'album, c'est l'inverse, quoi. Mmh. Tu vois. Il a kiffé le premier, il m'a dit, putain, j'aimerais vraiment jouer sur un album comme ça.
Ouais.
Si t'as de la place pour moi sur le deuxième, ça me ferait super plaisir. Ben, je lui ai dit, écoute, on va en trouver de la place, c'est pas un problème. Ah. Tu vois. Mais, il y a assez peu de musiciens à qui j'aurais dit oui, en fait. Et pas du tout par prétention, mais c'est que moi, les guests, j'y vais vraiment, je saupoudre, parce que quand tu commences à avoir trop d'invités, je vois ça sur beaucoup d'albums, il y a trop de guests, ouais. Bah du coup tu perds un peu l'âme du groupe, quoi, parce que moi je... est-ce que t'as entendu un guest une fois chez Maiden, quoi?
Non, je vois.
Il y en a pas, parce non. que tu sais très bien que c'est un élément qu'il faut pouvoir intégrer. Il se trouve que là, ça s'est parfaitement intégré avec une facilité. En plus, Patrick, il est en dehors du talent fou qu'il a, c'est un mec qui est adorable, quoi. Tu vois, c'est vraiment un mec super. Donc, ça a été un vrai, vrai plaisir, puis une vraie fierté, hein, pour nous tous, hein.
Bien sûr.
Walter est fan transi de Ronda, parce que les gens ne le savent pas, mais Walter, le batteur, en fait, c'est un fan de metal prog et tout. Il est fan transi de Patrick Ronda, il était sur le cul quand il savait que Patrick jouait sur l'album, quoi.
Ouais, c'est énorme, donc, Patrick Ronda, bien évidemment.
Voilà, ouais, c'est énorme, hein, ouais. Très, très content de ça. Puis il a fait un super travail, il a fait un solo magnifique, et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué sur un projet, tu vois, donc, c'est, ce qu'il me disait, ça fait des années que j'ai pas joué sur un album, tu vois, donc, donc voilà quoi, c'était un très beau, très beau moment.
Justement sur cet album, moi il y a d'autres trucs, mais autre chose qui m'a marqué, t'as joué sur la spontanéité du groupe, hein, dans l'enregistrement, ça se voit tout de suite. T'as joué, tu sens que tout n'a pas été réarrangé, retravaillé, étoffé mille fois. T'as été, il y a pas eu d'énormément de prises. Je pense que t'as joué sur le côté direct, t'as été sur la maîtrise et il a pas fallu longtemps pour que tout le monde mette tout en boîte.
Bah,
en
comme fait. Avant, ouais. comme ça se faisait avant quoi. Ouais. Les gens ont toujours pas compris que oui, c'est bien, t'as un gros son, ils ont trié tous les, ils ont tout fait, ils ont tout recalé. Oui, c'est super, c'est bien. Mais, enfin, je sais pas, moi, les albums que j'écoutais et qu'on écoutait, de toute façon, on pouvait pas le faire, ça n'existait pas, si tu veux. Mmh. À part de pouvoir faire des re-re, réenregistrer derrière des choses, tu pouvais pas recaler, tu pouvais, donc, je sais pas, moi, je comprends pas ce principe de surproduction. Déjà, les mecs, du coup, ils restent hyper longtemps en studio. Nous, à notre époque, les mecs, ils sortaient un disque par an.
Mmh. C'est vrai.
Pas compliqué. Tous les ans, moi j'étais fan de Dio par exemple, tous les étés il y avait un disque de Dio qui sortait, tu vois. Donc voilà, tu lâchais le premier en 83, 84 t'avais le deuxième, 85 t'avais le troisième qui sortait au mois d'août, tu vois. Et puis ouais. C'était, et Judas Priest faisait en gros pareil. Il y a que Def Leppard qui répondait pas à ces critères-là, qui mettait beaucoup de temps entre les albums, tu vois, surtout entre Pyromania. Et à l'époque, les gens s'en rendent pas compte, mais à l'époque ça dérangeait tout le monde.
C'est ça.
On disait mais qu'est-ce qu'ils foutent, ils font pas d'album ou quoi, ils sont, ça y est, c'est fini. Alors il y avait le batteur qui a vu son bras sectionner tout ça, mais toi, ils ont mis 5 ans, je crois, ou 4 ans, ils ont mis entre Pyromania et c'était une période folle pour l'époque. Maintenant, les groupes, ils sortent des disques tous les 3-4 ans.
Ouais. Parce que les tournées sont plus longues, parce qu'aujourd'hui le fric il est dans les tournées.
Ouais, mais c'est dommage, parce que moi j'aimais bien, et donc tant que je peux le faire, je veux garder cette forme de spontanéité, parce qu'on a quand même des outils numériques, hein. Il y a des choses qui sont quand même recalées, il y a des choses qui sont coupées comme on pouvait pas le faire à l'époque, on gagnait un temps fou, tu vois. Mais par contre, il n'y a pas d'autotune, par exemple, il n'y a pas une putain de note autotunée sur mes albums.
Ouais.
Pas une. Ouais. Et je peux te dire que c'est très énervant d'entendre des fois des réflexions, quand tu sais que les mecs citent des exemples où les mecs sont autotunés. Le problème, c'est que les gens, ils n'entendent pas vraiment quand c'est quelques traces infimes d'autotune. Sauf que nous, c'est un peu notre boulot. Et toi, tu entends que le mec, c'est gentil, mais sa voix, elle est corrigée, quoi. Tu peux y aller, il n'y a pas une note.
Justement, tu introduis la question suivante, The Last Time. Ouais. Ce titre, franchement, ce titre, il a sa place sur l'album Agent Provocateur de Foreigner. Ça, c'est. J'ai l'impression que tu as mis Emmanuel face à Lou Gramm, en fait. Vas-y, chante. Et mets ta Lou Gramm devant
fan,
toi.
Hein. Ouais. Tu sais que c'est un fan de Lou Gramm et Manu. Hein. En fait, ouais. Manu, ça. J'ai pas besoin de lui dire grand chose sur le fait de lui. Il comprend tout de suite le propos. On a des goûts. C'est un fan transi de Toto. C'est un fan transi de Foreigner. Je pense que son chanteur préféré, c'est Lou Gramm ou pas loin, tu vois, entre Coverdale et Lou Gramm. Et moi, c'est la cam, évidemment, tu vois.
Donc, ouais, mais
après,
si tu mets...
il a pas du tout la même voix, si tu veux.
Non. Mais la technique,
mais
elle est là.
Il arrive à aller chercher des choses. Et voilà, quoi. De toute façon, c'est un putain de chanteur, hein. Après, il a une voix particulière, mais moi, j'aime bien les gens. En fait, moi, j'aime les artistes uniques. Moi, j'aime pas entendre un truc générique où tu vois, t'entends les solos de guitare, tu peux changer d'album en album, en gros, t'entends les mêmes, parce que les mecs jouent à peu près pareil, les mêmes plans, à la même vitesse, avec le même son. Les chanteurs, c'est un peu pareil. Et moi, j'aime bien le fait aussi qu'on défende un peu ce côté-là. Dans les années 80, pour faire mon vieux con, Def Leppard, ça ressemblait pas du tout à Motley Crue, qui ressemblait pas du tout à Judas Priest, qui ressemblait pas du tout à Maiden. Tu écoutais 3 secondes d'un morceau, tu savais quel groupe c'était.
Ouais.
Tu reconnaissais le son. Tu reconnaissais le son de la basse, tu reconnaissais le son, évidemment, de la voix, tu vois. Et c'est ça qui est important. Un artiste, pour moi, se doit d'être quelque part, on a tous des influences, mais évidemment, mais un peu unique, tu vois, de faire une proposition qui soit un petit peu différente. Si c'est juste pour qu'on se clone les uns les autres, tu vois, d'avoir les mêmes chœurs, d'avoir les mêmes trucs, les mêmes refrains, les mêmes ponts, les mêmes, bah, pour moi, c'est, enfin, moi, c'est pas ce que je veux faire. Et je sais que ça, ça peut, il y a des gens qui sont surpris parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils se sont formatés sur un, sur des productions.
Qui sont pas les leurs.
Alors, mais moi, ce que je veux, c'est entre parenthèses, c'est garder une identité, quoi. Ce que je veux, c'est ça.
Ouais, c'est
Et je sais que Manu a une voix, très, très personnelle.
Ouais.
Il part facilement du côté de Tony Harnell, tu vois, il a des aigus complètement fous, en fait, tu vois. De toute façon, les gens qui viennent à un concert, en général, ils sont très, très, très calmés, hein.
Ouais. Il débarque et il chante, voilà. Il chante.
Il chante de chante, quoi.
Voilà,
vois,
c'est
donc,
ça. C'est ça. C'est l'artiste.
Simplement,
c'est l'artiste.
Et puis, pareil, il essaye pas d'en mettre partout.
Ouais. C'est ça, c'est ça. En plus, il a une belle présence sur scène, hein, en tout cas, ouais, là-dessus.
Ah oui, 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 impressionnant. Ouais. Oui,
Dis-moi, Rock'n'Roll Queen, c'est le titre que le groupe a choisi pour représenter effectivement le second clip de l'album avec le producteur Top Model, hein, sorti tout droit du casting de Miami Vice.
Complètement.
Ouais, et puis le clin d'œil du début, il est ravageur. Hein.
ouais, bah Lou, elle est super. Hein, c'est,
ouais.
C'est une amie de ma femme, en fait. Donc c'était rigolo, on avait ce casting-là. Voilà, je cherchais ma Rock'n'Roll Queen parce que l'album, ça fait... Voilà, ça fait des mois déjà. Enfin, moi, j'avais même pas commencé à écrire les morceaux. Je savais que mon album d'après s'appellerait Rock'n'Roll Queen. Je suis quelqu'un qui prévoit les choses.
D'accord.
Donc, je savais que ce serait ça. Et puis, par contre, pour le clip, on voulait éviter les clichés, tu vois. On voulait pas prendre une bimbo. On voulait déjà que ce soit que la Rock'n'Roll Queen. Si c'est une reine, c'est une femme forte. C'est pas du tout une groupie, tu vois. Ça devait être le contraire de ça, tu vois.
Mm-hmm.
Et puis voilà. Et puis, c'est ma femme qui m'a dit, ouais, mais il y a Lou là qui est prof. De danse et de pole dance et tout ça qui a un physique super, quoi. Enfin, je suis sûr qu'elle rendrait vraiment bien dans le clip, quoi, parce qu'en plus pareil, ce côté un peu unique, tu vois, un truc très particulier, et ça a matché tout de suite, quoi.
Ouais, ça, effectivement, ça a matché tout de suite, c'est le cas de le dire, en tout cas. C'est je pense que tout le monde a bien regardé le clip, hein.
Donc je crois aussi, j'ai eu pas mal d'échos, tu vois, sur les interviews que j'avais avec les Américains, tout ça, ils m'ont tous demandé, mais c'est qui cette fille et tout, ça c'était assez rigolo, quoi.
Ah,
qui pour le coup n'a pas du tout la culture rock, en fait, elle est pas du tout dans ce milieu là, c'était rigolo, quoi, c'était rigolo, mais ouais c'était super moment, ces clips là avec l'équipe.
Allez, en direct dans le 113 Rock Vinny Times de Classic Rock Radio, Ivan Guievic, hein, du groupe Earthline, qui vient présenter donc l'album. Il nous parle de l'album, du nouvel album Rock'n'Roll Queen. Sinon, il y a le doc Olivier Vinny Times, hein, il termine sa chronique, réalisée donc sur cet album, en précisant que les chansons de cet album sont caractérisées par une production pétillante qui leur donne une énergie contagieuse, les mélodies sont matures et les paroles expriment des émotions profondes. Ça, ce sont les mots du doc Olivier concernant sur la chronique, effectivement. Il termine sa chronique sur l'album Rock'n'Roll Queen sur ces mots-là, quoi. C'est bien exprimé, je pense.
Bah ouais, mais après, c'est fait plaisir, quoi, toi. En fait, ce qui est plaisant, c'est quand les gens, ils ont capté ce que ton délire, quoi, quand tu proposes un truc, tu vois. C'est de dire, tiens, voilà, je vous propose ça. Après, les gens prennent ou prennent pas, tu sais très bien mon avis là-dessus. Moi, quelqu'un qui me dirait, moi, j'ai écouté ton groupe, je l'aime pas, c'est nul. Je dirais, bah écoute, c'est bien, t'embêtes pas à l'écouter, quoi. Tu vas écouter autre chose, c'est pas grave du tout. Il y a plein de groupes, soi-disant super, que j'aime pas du tout, tu vois. Donc, c'est absolument pas un problème pour moi, ça, que les gens aiment pas ma musique. Mais par contre, ce qui est plaisant, c'est quand les gens la comprennent. Ils comprennent le délire, tu vois. Et ça fait plaisir. Et je crois que sur ce disque-là, on a eu quand même énormément de reviews à travers le monde.
Ouais.
C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines en Allemagne, en Italie, enfin, tu vois ça.
Ouais.
Et les gens, pour la plupart, les gens comprenaient le délire, tu vois. Rien que ça, déjà, c'était plaisant parce que voilà, des fois, c'est dommage de proposer quelque chose et puis que les gens comprennent pas ce que tu as voulu proposer. En général, c'est de ta faute, c'est que tu l'as mal exprimé, en fait. Donc je suis content qu'on soit pas trompé là-dessus, quoi.
Ouais.
Après, que les gens aiment ou aiment pas, comme je te disais, ça c'est pour moi c'est carrément, je m'en fous, en fait, tu vois. Je préfère qu'ils aiment, mais s'ils aiment pas, c'est pas mon problème. Moi, c'est plus mon problème. Moi, j'ai fait mon truc et voilà, quoi. Un musicien, un artiste, ça fait des choses, ça les propose, les gens les prennent ou les prennent pas.
Ouais.
Voilà, c'est pas à nous de dire aux gens s'ils doivent aimer ou pas, quoi.
Et justement, il y a le travail de Stan, hein, derrière, au niveau de l'artwork,
ouais,
qui vient aussi effectivement mettre des images à la musique, une image à la musique, ouais.
Ouais, ouais. Bah pareil, je savais le titre depuis longtemps, je savais en gros ce que je voulais. Donc c'est ce qui est super, hein, c'est que quand tu sais à peu près ce que tu veux et que tu confies tes idées à quelqu'un qui a énormément de talent, bah, il te sublime ça, voilà, quoi. Donc quand il m'a envoyé en gros la pochette, c'est le premier jet, quoi. Mmh. Un peu comme la première, hein.
C'est ça.
Comme Back in the Game qu'il avait fait, il m'envoie ça, je dis bah ouais, c'est exactement ça. Voilà, on a juste rajouté un truc, je crois, à la fin, on a changé le nom d'un truc, enfin vraiment, mais c'était déjà fait, quoi, tu vois. Et moi, je suis très content parce que ça exprime, pareil encore une fois, ça exprime exactement le contenu du disque. On sait à peu près où on va aller, je pense, quand on voit ça. Et c'était l'idée, quoi. J'avais parlé de Terminator, de Cobra, de ce genre de visuel, tu vois, en lui disant que je voulais, voilà, une femme forte, quoi.
Babe Wire, avec Pamela Anderson.
Bah oui. Ouais. Évidemment, ouais, la tenue en cuir, le flingue, tu vois, ce côté un peu fun, tu vois. Pareil, on se prend pas au sérieux. Il y a aussi un côté Maiden derrière, avec un côté... Woman in Uniform, c'est côté Maiden avec le mec qui est abattu derrière, tu vois, mais toujours très fun, quoi. Ouais, c'est un super graphiste, il a un talent de ouf.
Oh yes, Rock and Roll Queen Tour, le Save the Dates, effectivement, hein, le mardi 5 septembre. Hey, dans pas longtemps, hein, vous serez au Brin de Zinc du côté de Chambéry. Mercredi 6 septembre, au Hard Rock Café à Lyon. Le 7 au Secret Place du côté de Saint-Jean-de-Védas à Montpellier, enfin dans la banlieue de Montpellier. Le 23 septembre à l'Océanie, Plumeur. Je crois qu'il y a Patrick Ronda ce jour-là avec vous, je crois, peut-être.
Il sera sur la date,
Le 28 octobre, un petit festival métal. Un beau festival même du côté de Vouziers, ça va être intéressant ça. Et puis la soirée le vendredi 3 novembre au Backstage à Paris, au Bail 2000, ça va être bien ça aussi.
Exactement, au Backstage Bail 2000, donc c'est la salle qui est tout à côté du Moulin Rouge, parce que tu sais, il y a aussi le Backstage de Paris, mais qui en fait est à Montrouge.
Ouais.
Donc la salle s'appelle Backstage Bail 2000, c'est en plein Paris, c'est dans le quartier.
C'est collé à la loco quoi.
Exactement.
Ça va être une belle salle. Ça va être une belle soirée ça.
C'est une belle salle, ça va être super.
Bah écoute Yvan, merci en tout cas d'avoir été en direct ce soir dans 213 Rock Vinitans, le Classic Rock Radio. As-tu un message pour les auditeurs s'il te plaît?
Bah écoutez, n'hésitez pas à écouter notre album. Si vous aimez, par contre pour le coup, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est quand même très compliqué en France d'arriver à faire cette musique-là. Alors s'il y a encore des gens qui aiment le hard FM, comme on dit en France, l'AOR, le Classic Rock... la musique hard rock comme on dit, mais avec ce côté mélodique, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis nous, on ira jouer partout où on peut jouer, parce que nous, notre vie aussi, c'est d'aller sur scène, c'est pas que de faire des disques, pour moi c'est indissociable l'un de l'autre. Donc voilà, allez jeter une oreille et puis on espère que vous aimerez.
Ouais, effectivement, et les gens peuvent aussi se procurer l'album sur le site officiel earthline-official.com. Il y a des bundles, il y a des t-shirts, CD, donc tout est disponible effectivement. Il est beau le t-shirt en noir et blanc là, il est très joli celui-là.
Il y a tout. Il y a tout, et puis c'est vrai qu'en France, alors on avait un petit souci comme sur le premier de distribution qui ne dépend pas de nous, donc effectivement, il est assez difficile à être en magasin. Alors bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais on est quand même top 29 au Japon. Des albums importés au Japon, on est top 29 du hard rock, c'est-à-dire qu'on est devant des mecs comme Black Sabbath, Periphery ou Polyphia dans le classement, tu vois.
C'est bien.
Le classement de Burn, c'est pas rien. Je veux dire que donc on vend quand même pas mal de choses et on se fait vachement engueuler parce que on trouve pas votre disque, puis nous on est pour rien quoi.
Ils sont au Japon les CD.
En tout cas les Japonais les achètent, mais c'est surtout qu'en France, on a des petits problèmes de distribution. Et ça, on est un peu déçus parce que ça fait deux fois que ça nous fait le coup. C'est un petit coup de gueule, quoi, parce que je ne citerai pas le distributeur parce que je suis de bonne humeur, mais ça nous embête parce que tu vois ce que je veux dire. Heureusement qu'on a le site et ça se vend très bien grâce au site, mais c'est dommage d'être un groupe français, de pas se retrouver dans les bacs, tu vois. C'était mon petit coup de gueule du jour.
Ok, écoute, merci Yvan d'avoir été en direct ce soir dans le 113 Rock Vinitams, le Classic Rock Radio. On te souhaite en tout cas, la radio te souhaite bonne chance et on se dit à bientôt.
Merci bien, Rag, merci à tous.
Ok,
ciao.
Earthline 213 Rock Vinitams, le Classic Rock Radio, Yvan Givi qui était en direct ce soir. Podcast que vous retrouverez très certainement en début de semaine prochaine. 213 Rock, voici le single Rock and Roll Queen. 213 Rock Vinitams, le Classic Rock Radio.
Everything can change, and now she feels alive. I see a silhouette coming to the stage. She's like a star
Oh yeah, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Earthline. Yvan Guivy qui était en direct dans 213 Rock ce soir. Franchement, l'album, j'espère en tout cas que vous l'avez acheté. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller sur le site Earthline, donc le Earthline officiel.com 213 Rock. Ça, c'est important, c'est vraiment important. Vous pouvez, il y a de très très beaux t-shirts, il y a des bundles, il y a des prices. Soutenez le groupe en tout cas. Très bon disque. On remercie en tout cas Yvan pour cette interview podcast qui sera disponible en début de semaine. À l'instant, Rock'n'Roll Queen pour terminer la soirée. Demain soir, 20h, 100% musique, 213 Rock, Vinyl Times, le Classic Rock Radio. Merci de ce soir d'avoir été parmi nous. Vous avez été nombreux ce soir. Merci encore. Rendez-vous demain soir. Ciao, ciao.